Jean-Marc Perfil, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes le réalisateur du film qui sort ce mercredi 21, Le Tigre et le Président. C'est votre premier long. Je me dis que vous avez quand même de la suite dans les idées, puisque finalement, si on remonte à 2019, la sortie de votre court, Le Président et le Garde-Barrière, que vous avez été présenté un peu partout dans le monde, même à Austin, Texas, c'est que vraiment, et l'idée de base était finalement là, donc je veux dire, la genèse de ce long était déjà dans le cours, quoi.
Ah, complètement, c'est une longue histoire, même qui remonte bien avant le cours. Ce personnage de Paul Deschanel, c'est quelqu'un qui a marqué ma vie, parce que j'adore Les Perdants Magnifiques, ou je sais pas si c'est grâce à lui que j'aime Les Perdants Magnifiques.
Mais et c'est comme ça que vous avez travaillé avec Marc Sicas, qui lui aussi adore Les Perdants Magnifiques.
C'est notre point commun, c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, sur cette idée de parler de ces gens-là qui avaient raison un peu avant les autres, mais qui n'ont pas réussi à mettre en œuvre leurs idées. Et on trouve que c'est quelque chose de touchant, parce que c'est quelque chose qui peut nous toucher à chacun de nous, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'avoir une idée avant tout le monde et puis qu'on ne nous ait pas écouté.
Vous parlez des Perdants Magnifiques, je vois vous citer les réalisateurs et les films américains des années 70.
Oui.
L'Épouvantail, Macadam Cowboy, ouais. La conversation secrète, mm-hmm. Un après-midi de chien, c'est votre base cinéphilique.
Ah oui, puis tellement d'autres. Enfin, il y a aussi les films de Buster Keaton, les films de Charlie Chaplin, qui parle un peu de cette époque-là, et aussi parce que dans le film, on essaye aussi d'avoir un propos sur le cinéma, ce qui était vraiment débutant, sur les images d'archives, sur tout ça, avec Clémenceau qui remettait en scène ses propres images d'archives que nous on a pris pour la réalité. Donc il y a un vrai décalage de la réalité historique qui était intéressant à appréhender et à questionner.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'une comédie historique? Puisque finalement, le point de départ, c'est la chute du train de Deschanel, donc la nuit du 23-24 mai 1920. Ça paraît tellement incroyable. On dirait c'est un mauvais scénario. Et pourtant, c'est bien réel.
Et pourtant, c'est bien réel. C'est toute la force de Paul Deschanel. Il a réussi à être plus surréaliste que la réalité. C'était un homme dont on a affublé beaucoup de ridicule, parce que déjà la symbolique d'un président de la République qui tombe d'un train et qui laisse partir le train présidentiel et qui préfère rester 3 jours chez les gardes-barrières qui ne l'ont pas reconnu, et pendant que toute la France cherche son président, voilà un départ de comédie qui est assez, assez incroyable et pour le coup réaliste.
Alors, vos sources d'inspiration, je me suis dit, tiens, puisqu'on va quand même jusqu'à la farce. Bon, il y a un peu le théâtre de boulevard avec les portes qui claquent, il y a Pierre Richard dans le distrait, Buster Keaton, justement, Marx Brothers, ça vous parle tout ça?
Ah oui, j'adore tout ce que vous citez. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir fait de ce film une comédie populaire, dans le bon sens du terme, vraiment d'essayer de toucher le plus possible les gens pour rattraper le plus la postérité de ce président-là qui méritait beaucoup mieux que le ridicule dont on l'a affublé à cause de cette chute du train. Moi, j'ai eu la chance de lire ces 6000 pages de discours.
Oh là.
Et j'ai découvert un homme non seulement humaniste avec des idées incroyables, hyper avant-gardistes, mais écrit dans une langue incroyable, tellement elle était belle. Il était de l'Académie française, donc vraiment il savait écrire. Et c'était sa quête, c'était d'avoir des idées. Il pensait qu'après c'était pas à lui de les mettre en œuvre. Résultat, on l'a pas écouté, on l'a couvert de ridicule et ses idées sont parties aux oubliettes et ont mis des années avant d'être appliquées. Donc c'est toute cette ironie dramatique.
C'est vrai que Deschanel, finalement, c'est le bon, c'est l'abolition de la peine de mort, c'est le vote des femmes, les attaques contre la colonisation. C'est un visionnaire, quoi. Donc,
Ah bah oui. Ah bah, c'était un homme hyper, hyper érudit, il parlait 5 langues, il avait voyagé dans tous les pays du monde. Il avait vraiment une vision de la société, une vision sociale, parce qu'il voulait aussi le revenu universel, dont on commence à peine à envisager la possibilité. Lui, il voyait avec un communisme qui avait à peine 3 ans et un capitalisme qui disait pas encore trop son nom, lui il voyait une troisième voie humaniste sociale entre les deux, et je trouve que son positionnement était intéressant à cette époque-là. d'avoir réussi à penser ça. Et même Clémenceau, qui était un homme très très érudit, c'est ce qu'il dit à la fin, c'est un vrai mot de Clémenceau quand il dit que il avait tort, mais il avait raison d'avoir tort. C'est qu'il a une sorte de rédemption, enfin le personnage de Clémenceau a une sorte de rédemption. et que après tout, il n'était pas complètement contre les idées, il était juste vexé comme un pou d'avoir été battu à l'élection présidentielle.
Alors Clémenceau, justement, c'est mauvais, c'est la crapule quand même. Hein,
c'était un petit peu la crapule, ouais. Il n'était pas... quand on lui avait piqué ce dont il considérait avoir droit, il pouvait être très très dur. Il avait déjà une langue, c'est aussi la confrontation de deux langues. La langue emphatique de Paul Deschanel avec des longues phrases qui durent deux minutes, et puis la langue lapidaire de Clémenceau qui balance des cruautés au visage de ses adversaires. Et c'est ça que je trouvais intéressant aussi, c'est de créer cette rivalité entre les deux langues. Et Clémenceau, il n'était pas avare d'un petit coup bas pour arriver à ses fins. Hein.
Alors, convaincre André Dussollier de jouer un mauvais, c'est dur ?
Eh bien, je crois que c'est bien tombé. En tout cas, ça l'a... J'ai l'impression que ça l'a touché et qu'il avait envie de ça, qu'il avait envie de rire, de rentrer dans une comédie, de faire de Clémenceau un personnage de comédie. C'était pas rien. Et je trouve qu'il avait... Avec toute sa technique, son sérieux, son travail, j'ai tellement appris. Moi, c'est mon premier film, hein, donc il faut bien dire la chance que j'ai eue, qu'il accepte et qu'il donne toute son énergie pour rendre sous les traits de Clémenceau le personnage dont on avait besoin. Et j'étais vraiment très très heureux de voir son travail et j'ai tellement appris, ouais.
Alors, si on parlait un petit peu des femmes de Paul Deschanel, interprétées par Jacques Dornblin, on a quand même oublié de le préciser. Moi, il y a l'épouse, c'est notre Astrid Wettner.
Oui.
Il faudrait quand même que vous me parliez un petit peu de votre choix et en même temps ce qu'elle représente pour vous. Et alors, et la confidente, la patronne du bordel, Ariane, interprétée par Anna Mouglalis. Expliquez-nous un petit peu vos choix de comédienne.
Astrid Wettner, pour le couple qui était le couple Deschanel, qui était un couple très aimant, je voulais que l'élégance intellectuelle se lise physiquement. Et il fallait une femme d'une grande élégance physique, parce qu'on avait toutes ces scènes où elle marche avec ses grandes robes à travers les bureaux de l'Élysée, enfin qui sont censés de l'Élysée, mais qu'on a tourné au Quai d'Orsay. Et il fallait une femme qui sache jouer la tragédie vraiment au premier degré. Quand elle court après les feuilles, il faut peut-être pas que je le dise, mais en tout cas, je voulais qu'elle soit le pendant tragique du personnage de Deschanel, qui lui était un peu plus pathétique. Et j'ai été gâté avec Astrid Wettner, parce que en plus d'être une personne absolument délicieuse et toujours hyper travailleuse et d'une gentillesse infinie, et encore une fois, c'était mon premier film et j'ai tellement eu de chance d'avoir des acteurs qui ont accepté comme ça. Et elle a porté le rôle, et je trouvais que c'est pas le premier rôle, bien sûr, mais d'arriver à...
Important quand même, hein, parce que c'est vrai
important,
que...
Elle a...
La façon dont elle fait un petit peu, qu'elle pousse, elle est derrière, elle motive...
Elle a des phrases, moi, que j'ai, enfin, qu'elle sort de manière... Ça me fait encore des frissons quand elle dit « ne donnez pas raison à mon père ». Des manières de motiver son mari pour essayer qu'il arrive à écrire son fameux grand discours qui va changer la France. Je trouvais que une actrice comme Astrid était vraiment exceptionnelle, quoi, pour ça.
Et alors, assez amusant, c'est Patrick D'Assunção,
oui,
et Marie-Elisabeth Cornet, qui en fait étaient déjà dans le cours.
Et qui étaient déjà dans le cours. Mais quand ils étaient tellement formidables, ils avaient formé un beau couple. Il fallait des gens les plus sincères. Après le monde de cynique dans lequel gravite ce pauvre Deschanel, pour qu'il reste 3 jours chez ces gens-là, il fallait qu'il rencontre la sincérité qu'il n'avait pas connue avant. Et donc, c'était tellement important qu'il y ait ce couple-là qui se batte modestement contre un deuil terrible qui est celui que de millions de familles avaient connu, malheureusement, d'avoir perdu un fils à la Première Guerre mondiale. Et donc c'est vrai que Patrick D'Assunção et Marie-Elisabeth Cornet, qui est belge, façon, sont un couple de radeaux.
Ça va faire quelque chose de reprendre son personnage 3 ans après.
C'est très 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 bizarre. je pense que c'est très bizarre pour eux et pour moi aussi, parce que du coup, on retournait les mêmes scènes, mais avec plus de moyens, parce que là, on avait un peu plus de sous. Malheureusement, le nerf de la guerre, il est là. Et donc, c'était vraiment très très particulier comme.
C'était dur comme situation.
C'était dur à diriger parce qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. On pouvait faire, on pouvait filmer la rencontre de nuit, ce qu'on n'avait pas pu faire dans le court métrage. Donc les effets de nuit, il y avait beaucoup plus de mystère. On pouvait mettre de la fumée. Enfin, il y avait plein de choses sur lesquelles on pouvait jouer et sur lesquelles on n'avait pas pu jouer au court métrage. Et ça a permis, j'espère en tout cas, de se faire monter d'un cran cet épisode, quoi.
Alors parlons gros sous. Finalement, c'est quand même une coproduction belge.
Tout à fait.
Puisque nous avons quand même notre Benoît Roland, Wrongman et Proximus avec Philippe Levy, oui, qui s'y sont mis. Comment on fait pour convaincre des Belges de découvrir un pan de l'histoire française, quand même?
Ah, mais parce que la Belgique n'est pas si éloignée de ce pan de l'histoire, parce que Paul Deschanel est né en Belgique, à Schaerbeek. Il a son avenue Paul Deschanel, qui est importante. Elle va à l'hôpital et tout. Là où en France, il n'a qu'une petite allée en gravillon, quoi, sous la tour Eiffel, qui fait une dizaine de mètres. Donc, il y a un deux poids deux mesures. Il a quand même eu plus de postérité à Bruxelles qu'à
Paris. C'est l'élément que vous avez fait valoir à Benoît.
oui, peut-être. Et après, c'est vrai que. Et puis, c'est un film poétique, c'est un film un peu surréaliste, c'est un film qui parle de cette époque-là, des années folles. Je me disais que ça pouvait avoir. Enfin, la Belgique tournait autour de ce film et de cette histoire, quoi, j'avais l'impression.
En parlant de surréalisme, je pense à votre flamant rose qu'on voit d'ailleurs sur l'affiche. Et ça m'est venu à la mémoire le film de Louise Buñuel, donc avec la bourgeoisie, où on voit un animal passer, mais je ne sais plus lequel, derrière donc le charme discret de la bourgeoisie. Et je me suis dit, tiens, est-ce que lui aussi a cette même référence cinéphilique?
J'y avais pensé, mais ce n'était pas un flamant rose. Je ne sais plus ce que c'était.
Non.
C'était une noix ou je ne sais
plus
quoi.
Ou un zèbre ou un âne, je ne sais plus. Mais enfin, c'est vrai que ça m'avait interpellé. Et en voyant ça, je me suis dit, tiens, alors, ça, c'est quelle coïncidence, là.
En fait, c'est parce que je m'étais basé sur... j'avais tout lu ce que Paul Deschanel avait écrit. Il avait écrit des poèmes avant de rentrer à l'Académie française. Et un peu comme Baudelaire et son Albatros, lui, il avait... Il avait le flamant rose. Et puis quand j'ai regardé la symbolique du flamant rose, le flamant rose, c'est le pouvoir. Donc je me suis dit, tiens, ça va être marrant. Et puis c'est quand même un animal très bizarre, qui est à la fois élégant, mais à la fois, je sais pas, avec les genoux qui se plient à l'envers. Il est un peu inquiétant. Puis c'est bizarre, des jambes, des pattes aussi fines.
Alors, je trouve qu'il y a quand même aussi de la modernité dans les sujets traités, et notamment cette manipulation des médias. Je me dis, si on devait se retrouver maintenant avec les réseaux sociaux, quel massacre.
Oui. Je suis content que vous ayez vu cette petite résonance, parce Clémenceau était un patron de presse qui avait très très bien compris comment travailler, utiliser la presse pour détruire ou améliorer une réputation, et voire dans le cadre des Chanel pour carrément piétiner une postérité. Donc c'est une thématique qui est très intéressante et très très actuelle. L'idée, c'était de faire un film quand même qui ait quand même pas mal de résonance aujourd'hui sur le rapport au pouvoir, sur le rapport au fait d'avoir des idées, de les mettre en pratique, et aussi la fake news, puisqu'on peut employer un mot de l'époque, un mot de notre époque pour caractériser ce que Clémenceau avait, parce qu'il y a et d'autres, parce qu'il y a plein de gens.
Bernard Henri Lévy qui se met en scène
exactement comme Clémenceau. Tout ça, sauf Clémenceau, lui, il était vraiment allé. Là, je dois la vérité qu'on ne peut pas les mettre quand même dans le même sac avec Bernard-Henri Lévy.
Une dernière question qui concerne votre gros travail de montage, notamment avec ce mélange d'actualité de l'époque, et surtout tout ce que vous avez dû retourner et retravailler sur le noir et blanc. C'est assez énorme, non?
Je trouvais que c'était intéressant. En partant du principe que justement, Georges Clémenceau avait eu cette. cette idée géniale de remettre en scène ses propres images d'archives que nous on a pris pour la réalité, et on s'est dit ben voilà, tiens, faisons un peu la même chose quoi, utilisons quelques plans larges et essayons d'intégrer nos acteurs histoire de perdre complètement le spectateur dans ce qui est vrai, ce qui est faux, et de l'amener, de lui raconter une histoire avec une vérité qui est inattaquable puisque c'est la vérité des images d'archives.
Donc c'est vrai que nous sommes fortement manipulés par vous, il me semble quand même. À certains moments, où suis-je? Est-ce la réalité? Quand on se trouve chez Ariane, on se dit, c'est pas possible. Bon, justement, Clémenceau de Chanel, à la limite, ils se croiseraient là-bas.
Mais ça, pour le coup, c'est des vérités historiques. Hein. Ils fréquentaient les mêmes salons.
Ça alors.
J'ai même eu un historien, et je ne le savais pas au moment ni de l'écriture ni du tournage, mais un historien qui est à Dijon il y a une dizaine de jours, qui m'a dit qu'il avait retrouvé, il s'était battu en duel, Clémenceau Deschanel, plus de 20 ans avant le film.
Et il était blessé.
Et Deschanel était blessé à la joue, ouais. On a retrouvé une lettre que Clémenceau a écrite à la prostituée qu'ils partageaient tous les deux, et Clémenceau disait « Je n'ai pas trop blessé ton petit Paul. Ne t'en fais pas, je n'ai pas trop blessé ton petit Paul. » Et voilà, bon, ben, c'était une classe politique qui était très sur elle-même, quoi.
Jean-Marc, un grand merci. Donc, on rappelle Le Tigre et le Président qui sort ce 21 septembre. Merci.
Merci beaucoup. Merci.